Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, voulez-vous que Dieu vous aide davantage? Voulez-vous que son cœur batte plus fort pour vous? Oui, j'en suis certain, et j'aimerais vous livrer ce soir un secret pour réaliser cette chose. Ce secret, je vais vous le faire connaître à travers l'épisode de la vie d'un saint, plus exactement d'une sainte. Écoutez, soyez attentifs, c'est important. Un jour, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui tenait alors la place de maîtresse des novices, reprend une de ses novices préférées, Sœur Marie de la Trinité, pour une faute qu'elle a commise. Sœur Marie de la Trinité est une personnalité vive, expansive, assez réactive, et elle se revive devant cette remontrance faite par cette sœur, qu'elle aime d'ailleurs par ailleurs beaucoup. Mais rapidement, cette adroite réalise que sa réaction est décalée, elle vient s'excuser, elle vient demander pardon à sa chère maîtresse des novices, et alors elle est témoin d'un phénomène qui l'étonne énormément. Elle voit les yeux de Thérèse s'embuer de larmes. Elle lui demande alors, mais pourquoi pleurez-vous? Et la réponse de Sainte Thérèse est fort intéressante, écoutez-la bien. Si vous saviez ce qui se passe en moi, non, je n'ai jamais éprouvé si vivement avec quel amour Jésus nous reçoit quand nous lui demandons pardon après l'avoir offensé. À peine commenciez-vous à m'exprimer votre repentir que j'ai senti pour vous plus d'amour qu'auparavant. S'il en est ainsi de moi, pauvre petite créature, que doit éprouver le bon Dieu quand le pécheur revient à lui? Au premier mouvement du cœur repentant, non seulement Dieu pardonne, oublie et rend son amour au pécheur, mais il l'aime bien davantage encore qu'avant la faute. Mes frères, la leçon de cet épisode est claire. Si nous voulons décupler l'amour de Dieu pour nous, il nous faut lui donner l'occasion d'exercer à notre endroit sa miséricorde. Et c'est maintenant le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour de salut, comme nous venons de l'entendre dans l'antienne des Magnificat, car aujourd'hui les écluses du ciel sont toutes grandes ouvertes, nous sommes dans la mire de la miséricorde, vous le savez, et puis c'est l'ouverture du carême, ce temps de conversion, ce temps de grande retraite pour toute l'Église dans lequel nous sommes entrés, et nous allons demander, nous allons donner à Dieu l'occasion d'exercer envers nous cette miséricorde, mais vous vous demandez peut-être comment donner à Dieu l'occasion d'exercer sa miséricorde envers nous. La réponse est en fait assez simple. Vous savez que le principal moyen par lequel Dieu touche nos âmes, ce sont les sacrements. Et parmi ces sacrements, il y en a un qu'on nomme à bon droit le sacrement de la miséricorde. C'est donc spécialement en recevant ce sacrement que nous allons donner à Dieu l'occasion d'exercer à notre endroit sa miséricorde. Mais attention, vous savez que les sacrements, on peut les recevoir de bien des façons différentes. Il y a des façons fructueuses de le recevoir, mais il peut y avoir des façons infructueuses, déficientes. Alors, j'aimerais profiter de cette année de la miséricorde pour que nous refassions ensemble la révision des 100 000 kilomètres. Nous recevons tous de façon habituelle le sacrement de réconciliation, c'est une très bonne chose, mais voyez-vous, les choses que l'on pratique souvent ont tendance à se galvauder. On en perd parfois la valeur et l'usage aussi. Est-il bon de temps en temps, eh bien, de nous réveiller sur notre façon de recevoir ce sacrement? Pour faire cette révision des 100 000 km, nous allons avoir un fil directeur. Ce fil directeur, il est fort simple. Vous l'avez appris au catéchisme, vous savez que les sacrements sont composés de trois éléments essentiels, principaux, la matière, la forme et le ministre. La matière, pour illustrer les choses de façon concrète, pour le baptême par exemple, vous savez tous que c'est l'eau du baptême. Pour la forme, toujours pour ce même sacrement, c'est cette parole que prononce le ministre, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et enfin, pour ce qui est du ministre, eh bien, en temps ordinaire, c'est le prêtre, le diacre, et puis en cas d'urgence, ça peut être n'importe qui, même un musulman, figurez-vous, il suffit d'avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. Enfin, ne demandez tout de même pas à un fanatique de Daesh de vous baptiser, je pense qu'il refusera. Ceci mis à part, donc, entrons maintenant dans chacun de ces éléments, avec plus ou moins d'importance selon leur cas. Tout d'abord, le ministre. le sacrement de miséricorde, c'est évident, le ministre, c'est le prêtre validement ordonné, ça va de soi. Ça va de soi, mais vous savez qu'on a trouvé dans l'histoire de sinistres individus pour se déguiser en prêtre et venir écouter les confessions pour des motifs fort peu avouables. Bon, en général, ce n'est pas le risque qui guette notre façon de, qui risque de rendre infructueux le sacrement de pénitence. Ici, vous connaissez tous les prêtres. Notamment, je me souviens d'un de ces prêtres, enfin de ces faux prêtres qui administraient le sacrement de miséricorde, c'était le sieur Kergolet de Gouvello, sinistre individu qui s'est converti au moment des exorcismes de Boudin, interpellé par un démon qui disait qu'il devrait déjà être en enfer avec eux, ce qui lui a bien sûr fait un électrochoc sanitaire qui l'a converti. Voilà. Et puis, avoir un ministre ordonné, c'est une bonne chose, mais il faut encore que ce ministre ait les pouvoirs d'administrer ce sacrement. Et ce n'est pas le cas de tous les prêtres. Certains prêtres n'ont pas ces pouvoirs. Vous savez d'ailleurs qu'à l'occasion de cette année de la miséricorde, le Saint-Père a accordé aux prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, qui n'ont normalement pas le pouvoir de juridiction, précisément ce pouvoir pour le sacrement de pénitence. Et donc, ils peuvent désormais validement administrer ce sacrement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et quand ces pouvoirs leur sont conférés, eh bien, ils peuvent toujours administrer validement le sacrement. Voilà. Donc, le premier élément, le ministre. Le deuxième élément, la forme. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En général, là-dessus, pas de problème. Quoi qu'encore, faites attention. Parfois, il peut arriver que, par exemple, après 3 jours de pèlerinage, arrivé épuisé sur le parvis de Notre-Dame de Chartres, le prêtre qui vous administre le sacrement, après avoir reçu l'écho ardent des rayons du soleil sur son crâne dégarni, comme c'est mon cas par exemple, eh bien, oublie de donner l'absolution, ce qui, bien sûr, eh bien, il faut à ce moment-là, lui, tirer la sonnette d'alarme pour lui demander de bien avoir l'obligeance de réparer cet oubli, car c'est finalement le plus important, un des éléments les plus importants du sacrement. Voilà, tout ça, ce sont des éléments, somme toute, assez simples. Nous allons maintenant entrer dans celui qui est finalement le plus important pour le pénitent, donc pour nous-mêmes, c'est la matière du sacrement de pénitence. Alors, si j'avais fait un petit examen avant que vous entriez dans cette église et que je m'étais posté à l'entrée et que je vous avais posé cette question, quelle est la matière du sacrement de pénitence? Pour l'Eucharistie, je n'ai aucun doute que vous m'auriez dit très exactement les choses. Pour le baptême aussi. Mais pour le sacrement de pénitence, j'ai parfois entendu des réponses fort originales et complètement fausses. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que sont la matière du sacrement de pénitence. En tout cas, ce n'est pas comme je l'ai entendu parfois, le confessionnal, le meuble dans lequel on entre, ou l'étole du prêtre. Non, ça n'a rien à voir avec cela. La matière du sacrement de pénitence, ce sont ce qu'on appelle les actes du pénitent. Mais encore, me direz-vous peut-être, eh bien, ces actes du pénitent, il y en a 3 essentiels. C'est d'abord l'aveu des péchés, la contrition et la satisfaction, la pénitence à effectuer. Et c'est souvent de ce côté-là qu'il y a une déficience qui risque de rendre invalide ou peu fructueuse le sacrement lui-même. Et donc, nous allons entrer un petit peu dans les détails pour voir ce qui est requis pour permettre à ce sacrement d'être reçu fructueusement. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, le plus important dans la matière du sacrement de pénitence, ce n'est pas de faire, comme on le croit souvent, une liste exhaustive de toutes ses misères et de tous ses péchés. Le plus important dans le sacrement de pénitence, c'est ce qu'on appelle la contrition. C'est-à-dire, comme l'explique très clairement le Concile de Trente, cette douleur de l'âme pour le mal commis qui a offensé le Seigneur, et cette ferme volonté de ne plus recommencer ses fautes. Voilà le cœur et l'essentiel du sacrement de pénitence. Il est bon, avant d'aller se confesser, eh bien, de s'exciter, comme on dit dans un langage un peu désuet maintenant, à cette contrition, et pour, je dirais, ne pas perdre la forme, tous les soirs, lorsque nous faisons notre examen de conscience, nous pouvons réciter cet acte de contrition en tâchant d'avoir cette douleur pour pour les fautes que nous avons pu commettre envers le Seigneur. Et ainsi, lorsque nous serons dans le confessionnal, d'abord, eh bien, nous n'aurons pas oublié notre acte de contrition, ce qui arrive parfois, et puis ensuite, nous le dirons avec beaucoup plus de ferveur, parce que c'est quelque chose que nous disons habituellement et que nous avons l'habitude de dire consciemment et avec ferveur. Voilà, la contrition, c'est l'essentiel. Deuxième élément, et c'est souvent là que le bât blesse, c'est l'aveu. Il y a des conditions pour que le sacrement de pénitence soit validement reçu du côté de l'aveu. Tout d'abord, la première, vous le savez, c'est que tous les péchés graves dont on a conscience doivent être énoncés avec le nombre et l'espèce dans le sacrement, après un examen de conscience fait sérieusement. Voilà, si on cherche à faire des impasses par honte ou par orgueil sur certains de nos péchés, eh bien, à la différence du bridge, les impasses en confession, ça ne passe jamais, surtout pour les fautes graves. Donc, eh bien, si l'on a l'intention de jouer au cachotier en entrant dans le confessionnal, il vaut mieux ne pas y entrer du tout. Saint Jean-Paul II disait à ce propos-là, lors d'une allocution faite à des étudiants en théologie morale le 22 mars 1996, la confession doit être complète, en ce sens qu'elle doit énoncer tous les péchés mortels. Aujourd'hui, de nombreux fidèles s'approchant du sacrement de pénitence ne s'accusent pas entièrement des péchés mortels et parfois ils s'opposent au confesseur qui, conformément à son devoir, les interroge pour parvenir à une description exhaustive et nécessaire des péchés, comme s'il se permettait une intrusion injustifiée dans le sanctuaire de la conscience. Je souhaite et prie pour que les fidèles peu éclairés soient convaincus que la règle selon laquelle on exige l'énumération spécifique et exhaustive des péchés, dans la mesure où la mémoire interrogée de façon correcte permet de s'en souvenir, n'est pas un poids qui leur est imposé arbitrairement, mais un moyen de libération et de sérénité. Voilà, donc ça c'est ce qui concernait l'aveu des péchés graves. En ce qui concerne les péchés véniels, eh bien la stratégie est exactement inverse. Il ne s'agit surtout pas de faire une liste exhaustive de ces péchés, sans quoi nous en aurions pour la journée entière et peut-être davantage encore. Et d'ailleurs, c'est impossible de faire une liste exhaustive de ce genre de fautes et imperfections. Il va donc falloir concentrer notre confession sur les fautes qui reviennent le plus souvent, celles qui sont le plus malicieuses, celles que l'on perçoit comme étant le plus grand obstacle à notre union à Dieu. Tout le but de notre vie, c'est d'être unis au Seigneur, de vivre dans son intimité. Il y a des actes qui reviennent régulièrement dans nos vies et dont nous sentons eh bien, qu'ils mettent une distance avec le Seigneur. C'est cela qu'il faut pointer et qu'il faut présenter au confessionnal pour pouvoir recevoir fructueusement et avec bénéfice ce sacrement. Voilà, je vous donne l'exemple d'une confession sans grand intérêt. Elle est un peu comme ces gaz parfaits que l'on dit être incolores, inodores et sans saveur et qui ne vont pas apporter grand-chose. J'ai menti, j'ai manqué à la charité, j'étais vaniteux, j'étais paresseux. Voilà, ça ne mange pas de pain, tout le monde peut dire la même chose. Et en fait, on rate un petit peu le sacrement car, en fait, eh bien, c'est forcé d'être, je dirais, clair, exhaustif dans cette accusation, va permettre d'abord de faire la vérité sur nous-mêmes. On va discerner quelles sont les racines du mal en nous, du moins, on va faire un effort pour le présenter au confesseur qui, s'il est bien inspiré et s'il a un minimum de science, va être capable de donner un avis pertinent pour réagir. Hein. Le sacrement de pénitence est aussi, on parle du tribunal de la pénitence, qui est parfaitement exact, on parle aussi de la médecine des âmes. Et vous, si vous allez chez le docteur et que vous lui décrivez de façon extrêmement vague vos symptômes, eh bien, il va être fort embêté, il ne va pas vous donner le médicament adapté. Et bien, de même au confessionnal, il faut être pertinent et judicieux dans ses accusations. Et puis, autre bénéfice d'une accusation sincère et véridique, c'est qu'elle est un peu humiliante. Et ça nous fait beaucoup de bien. Oui, nous avons besoin aussi d'avoir des petites humiliations, car, comme le disait très justement Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il n'y a pas d'humilité sans humiliation, et vous savez l'importance de l'humilité dans la vie spirituelle. Donc, allez-y sans complexe, décrivez les choses de façon. Alors, je vais vous donner un exemple hein, face à cette fameuse accusation que je vous ai indiquée, fort peu intéressante. Je vais vous la rendre un peu plus croustillante, ou du moins un petit peu plus vivante, pour que vous compreniez ce que je veux dire. J'ai menti, et bien cela peut très bien pu être. J'ai menti à une amie malade qui comptait sur ma visite. parce que ça l'avait ennuyé atrocement, j'avais envie de faire autre chose, de consulter Internet, de lire un livre qui me plaisait, d'aller me balader, d'aller faire du shopping, ou je ne sais quoi encore. Bref, je lui ai menti. Voilà, alors là, tout de suite, vous voyez, ça donne un petit peu, on comprend ce qu'il y a derrière cela. C'est là une certaine, je dirais, un manque de charité, effectivement, qui a été à l'origine de ce mensonge. J'ai menti dans un salon en m'attribuant des relations que je n'avais pas pour briller, pour me gonfler. Voilà, derrière ce mensonge, il y a la vanité. Très intéressant aussi. J'ai menti à mon employeur pour obtenir un congé auquel je n'avais pas droit. Là, on peut hésiter entre la paresse, la varice. Enfin, il peut y avoir différentes choses derrière cette accusation. J'ai trompé un client sur la qualité de mon travail afin de pouvoir lui extorquer davantage. Alors ça, c'est très courant dans la vie économique actuellement. C'est du quasi quotidien. J'en sais quelque chose parce que je m'occupe des achats courants. Et il faut être extrêmement vigilant, d'autant plus que quand on voit un bras, on s'imagine, et on n'a pas tout à fait tort, qu'on a affaire à un grand rêveur complètement perdu dans les nuages. Et donc, les gens ont tendance à en profiter, il y en a plus. Mais rassurez-vous, j'ai peur. J'ai manqué à la charité, j'ai dit une parole blessante à quelqu'un que je n'aime pas du tout pour lui faire de la peine. Ah ben voilà, effectivement. J'ai manqué à la charité, j'ai témoigné du mépris envers un collègue que je trouve complètement stupide et je lui ai fait le bien sentir. Parole d'attitude, parole remarque. J'ai manqué à la charité en refusant de secourir un ami qui était dans le besoin. J'ai été vaniteux en passant un temps exagéré devant mon miroir à refaire ma toilette, à refaire mon maquillage, à me regarder à la glace devant tout, à tout propos. En faisant la roue dans un groupe, en essayant de capter l'attention pour me mettre au centre de tout. Là aussi, c'est quelque chose qui peut arriver. Bref, j'ai été paresseux, alors là, un très grand classique, en ne sortant pas du lit quand le réveil sonne. Ça, je pense que tout le monde, beaucoup de personnes peuvent se retrouver là-dedans. J'ai négligé mon devoir d'État. Bref, on pourrait continuer à l'infini. Je crois que ce n'est pas la peine d'insister. Vous avez compris, en fait, comment présenter les choses de façon à ce qu'elles soient, je dirais, parlantes pour le confesseur qui, avec de tels aveux, eh bien, je dirais, c'est pas un ennemi pour diagnostiquer un remède adapté à cette maladie de l'âme qui nous habite. Donc, en général, la recette est simple. Poser des actes contraires aux tendances mauvaises que nous avons en nous. Si c'est de l'orgueil, eh bien, pratiquer l'humilité. Si c'est de l'avarice, eh bien, pratiquer la générosité. Si c'est... Voilà. Il y a tout un tas d'ouvrages très pertinents, très performants qui expliquent tout cela. Alors, évidemment, il y en a un qui ne veut surtout pas que vous veniez vous confesser ou bien vous confesser. Donc, il n'est pas court d'arguments le bougre pour vous en détourner. Un jour, Mère Louise Marie, Marguerite de la Touche, se prépare à aller se confesser et entend une voix auprès d'elle, singulièrement sèche et métallique, qui lui dit la confession, à quoi ça sert? Jésus n'en a jamais parlé, c'est une invention de l'Église. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin d'être expert en discernement des esprits pour savoir d'où venait cette voix, c'est bien sûr le diable, puisque cette parole est pleine de mensonges. Bien sûr, le Christ a parlé de la confession. Vous vous souvenez qu'au matin de la résurrection, il dit à ses apôtres, recevez le pouvoir de pardonner les péchés, ils seront pardonnés à ceux à qui vous pardonnerez, ils seront remis à ceux qui vous retenez. Et cette parole, donc, donnée à ses apôtres, marque l'institution du sacrement de pénitence. Ensuite, il peut essayer de nous faire croire que nous avons trop péché. Voilà, on est impardonnable. C'est comme ça qu'il a eu Judas. C'est comme ça qu'il a eu Judas. Et dans ces cas-là, il faut nous souvenir cette parole si bienfaisante de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand bien même j'aurai sur la conscience tout ce qui se puisse commettre, je sais que j'irai rencontrer mon Père, le cœur brisé, et que tous ces crimes seraient comme une goutte d'eau lancée dans l'océan de sa miséricorde infinie. Bref, tout cela sera absorbé. Donc, nous ne péchons jamais trop pour que le Seigneur puisse nous pardonner. Il faut bien le savoir. Ensuite, le démon peut faire naître une honte terrible par rapport à nos péchés. Quoi ? Tu vas aller raconter cela à un curé ? Mais qu'est-ce qu'il va penser de toi ? Il vaut mieux te taire. D'ailleurs, est-ce que tu te sens si mal ainsi ? Alors reste ainsi. D'ailleurs, tu n'es pas sûr que c'est un péché. Alors ne le dis pas. Voilà. Ou alors, si tu le dis, bon, tu vas y aller, mais tu vas dire ça, pas de problème, mais pas ça. Voilà. Donc là, évidemment, il cherche à rendre invalide et infructueuse notre confession. À ce propos-là, il revient une anecdote concernant la vie de Saint Jean Bosco, vie riche en épisodes surnaturels fort intéressants. Un jour, un de ses enfants lui dit « Père, donnez-moi un conseil. » Alors, Saint Jean Bosco lui demande « Quel genre de conseil veux-tu ?»« Je voudrais un conseil utile pour le bien de mon âme. » Alors, c'est toujours très très dangereux de faire une telle demande à un cinquième charisme qui vit dans les cœurs. Et il lui dit, eh bien voilà, ça fait 3 ans et demi que tu vis en état de péché mortel. C'est un coup de foudre pour le jeune homme qui lui dit, mais je ne comprends pas, je me confesse tous les mois à Dieu seul. Il dit, oui, mais tu sais très bien qu'il en est ainsi. Tu as 50 péchés mortels et il m'en fait la liste que tu as cachée en confession. Effectivement, donc cela nous rappelle que les impasses, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à la différence du bril, ça ne passe jamais en confession. Voilà, dites-vous bien que le prêtre en a entendu bien d'autres et bien davantage, et par exemple, et par conséquent, n'ayez aucun complexe. Soyez, allez-y, franco, videz votre sac, et je vais vous faire une confidence. Le prêtre est même bien souvent content d'entendre des gros péchés, pas que des péchés, vous comprenez, mais parce qu'il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui revient que pour 100 justes qui persévèrent. Et donc, je ne vais pas dire n'inventez pas des gros péchés pour faire plaisir au prêtre quand même, hein, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais enfin, tout de même, sachez que si vous avez vraiment un gros poisson à sortir de votre sac, eh bien, cela ne fera pas de peine au prêtre. Et si le prêtre pense mal de vous, eh bien, il a un grand besoin lui-même de passer directement au confessionnal après votre confession. Donc, n'ayez aucun complexe. Voilà. Et puis, vous savez qu'on est au secret absolu, que des prêtres ont donné leur vie pour eux, c'est le cas de Saint Jean Nepomucène, saint très vénéré dans les pays de l'Europe centrale. Le roi soupçonnait la reine d'avoir fait des choses pas très catholiques. Et le roi voulait absolument savoir ce que la reine avait avoué en confession. Le roi a employé toutes sortes de menaces qu'il a fini par exécuter. Il a envoyé Saint Jean Nepomucène dans la Val d'Abbas, c'est le fleuve qui coule à Prague. Et alors, je ne sais pas s'il est mort noyé ou s'il est mort sur l'eau gelée, enfin, en atterrissant sur la glace. Bref, peu intéressant. En tout cas, il a donné sa vie pour conserver le secret de confession. Voilà, quand on va voir le prêtre confessionnal, c'est le Christ lui-même qu'on va voir. On a raconté d'ailleurs à ce propos-là une histoire charmante. Un enfant, justement, à qui sa grand-mère explique, eh bien, c'est le Christ Jésus que tu vas aller voir au confessionnal et avouer tes péchés. L'enfant rentre au confessionnal et ressort tout aussi sec en disant à sa grand-mère, c'est pas Jésus, c'est monsieur le curé, je dis quand même. Voilà, il avait cette foi vive de l'enfant, effectivement, qui croit, effectivement, et qui a tout à fait raison de croire que c'est le Christ que l'on rencontre au confessionnal. Voilà, n'en mettons pas à tard les bonnes choses. Donc, en cette année de la miséricorde, profitons de ce sacrement extraordinaire. À chaque fois, c'est le Christ qui vient toucher nos âmes, et même si le prêtre n'est pas forcément très inspiré dans ses commentaires, dans ses diagnostics, peu importe, finalement, ultimement, c'est cette grâce qui nous est conférée, qui purifie nos âmes, c'est le précieux sang qui coule sous nos âmes et qui les vivifie et les régénère. Amen.